et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Voilà, bonsoir chers auditrices et auditeurs de VOA Afrique, partout où vous trouvez sur le continent africain ou partout ailleurs dans le monde. Eric Manilakiza avec vous dans Dialogue des religions. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur Mère Teresa de Calcutta ou la Sainte Teresa de Calcutta. Vous l'avez entendu, le pape François l'a canonisé dimanche, c'était à Rome, et nous allons retrouver encore une fois le professeur Paul Ngarambe à Bujumbura, qui est catholique pratiquant. Professeur Ngarambe, bonsoir.
Oui, bonsoir à vous et merci de m'avoir appelé.
Merci, heureux de vous retrouver encore une fois dans Dialogue des religions. On va parler donc de Mère Teresa. D'abord, est-ce que voudriez-vous nous expliquer aux auditeurs ce processus de canonisation? C'est quoi exactement?
En fait, le processus de canonisation commence d'abord par une procédure qui précède, qui est la béatification. Béatification, c'est être mis au rang des bienheureux qui pourront être canonisés plus tard.
Justement, et c'est Jean-Paul II qui l'a béatifié en 2003.
Il a été béatifié en 2003 par le pape Jean-Paul II, qui lui, dans l'entretemps, il est décédé en 2005, et puis quelque chose comme 8 années après, lui-même a été déjà canonisé. En fait, il est dans le registre des saints.
Oui, et Jean-Paul II, sans vous interrompre, disait que Mère Teresa était une infatigable bienfaitrice de l'humanité.
Oui. Et alors, ce que le pape a dit là, c'était très important parce que cette jeune religieuse d'Albanie qui a été envoyée en mission en Inde a été frappée par les trop grandes richesses des uns, mais aussi la trop grande pauvreté des autres, la grande majorité, et elle a demandé à ses supérieurs de pouvoir s'occuper justement des plus pauvres, précisément à Calcutta, là, en Inde. Voilà donc son grand cœur, quelqu'un, elle pouvait vivre comme tous les autres, une foi, j'allais dire, normale, moyenne, mais vraiment, elle a voulu vouer sa vie, toute sa personne, à ces personnes déshéritées des quartiers, des banlieues de Calcutta.
Oui, donc Mère Teresa au service des plus pauvres. Nous avons quelques commentaires sur notre page Facebook. Bien sûr, il y a Célé Diongo qui dit que la beauté de la vie de Mère Teresa réside dans ses tumultes. Elle a supporté sa croix jusqu'au bout, manifestant sa fidélité et reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ, et priait en parlant et parlait en priant afin que la mission du Seigneur s'accomplisse. Quel est votre commentaire, professeur Ngarambe, sur le point de vue de notre...
Ce commentaire est vraiment très juste, parce que quand vous regardez les portraits de cette Mère Teresa, c'est une femme de petite taille vraiment. Mais alors, elle est de petite taille, mais elle a vraiment un très grand cœur, un cœur extraordinaire. Alors, c'est là où se trouve sa beauté. Peut-être qu'elle avait même aussi une beauté physique, probablement. Mais une beauté physique, on l'a, et puis ça part. Mais les qualités du cœur, et les qualités du cœur mises au service des frères et des sœurs de l'humanité entière, voilà une beauté qui ne passe pas. Et c'est ce que cet internaute a remarqué, et je le remercie beaucoup.
Oui, et donc les trois papes qui se sont succédés, qui ont toujours dit un mot sur Mère Teresa, il y a le pape Jean-Paul II qui l'a béatifié. Le dossier de canonisation a été ralenti sous Benoît XVI, mais Benoît XVI voyait en Mère Teresa une incarnation de son idéal je cite, d'une église pauvre pour les pauvres. Qu'est-ce que cela sous-entend, monsieur Pongarambe ?
Alors, une église pour les pauvres, et il voyait que cette pauvre femme a reflété cela. C'est qu'en réalité, l'humanité qui n'a pas encore rejoint Dieu, on peut dire que c'est une humanité pauvre. Donc, elle souffre de quelque chose avec tout ce qu'il y a comme problème ici-bas, dans l'humanité, dans notre monde. Il faut bien qu'il y ait quelques personnes, si c'était possible tout le monde, mais ça, c'est peut-être impossible, eh bien, que des personnes se plongent dans cette humanité, dans sa pauvreté, afin que dans cette pauvreté, ces personnes puissent l'amener vers Dieu, contribuer autant que faire se peut à alléger la souffrance, à alléger la pauvreté qui serait comme une insulte à la personne humaine.
Oui, restez en ligne, nous recevons un auditeur, Valérie Capita, qui je crois est en RDC. Valérie, bonsoir. Oui, vous avez la parole.
La béatification n'est pas... C'est quand même biblique. J'ai vu les commentaires de... N'importe quoi qui commentait vraiment d'une manière... Il faut que je dise que non, c'est biblique. Et puis c'est normal de le faire comme le pape François l'a fait. Dimanche.
Et vous êtes catholique, vous aussi?
Également, je suis catholique.
Oui. Comment vous vivez justement des œuvres de Mère Teresa? Est-ce qu'il vous arrive de penser vivre avec elle ou donner des services qu'elle a donnés aux pauvres?
Oui, c'est ça. Mon service, c'est d'aider les pauvres et puis de donner aussi la paix au monde, à part ces citations.
Merci Valérie. On va recevoir Célé Diongo. Célé Diongo qui est toujours en RDC. Célé, bonsoir. Célé, vous êtes là? Je pense qu'il y a un petit problème de téléphone avec Célé Diongo. Nous revenons sur vous, professeur Ngarambe. On me signale qu'il y a Bakary Keïta qui est en ligne déjà. On va le recevoir
oui,
et puis nous revenons.
Bon.
Oui. Bakary, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous êtes au Mali, n'est-ce pas, Bamako?
Très, très bien, Bamako, bien
oui.
sûr.
Vous êtes musulman?
Oui, je suis musulman.
Oui, et admiratif de Mère Teresa, sans doute.
Quand même, très bien, quand même, je suis ravi que Teresa quand même soit canonisée. Et quand même, je suis très, très ému. Parce que dans la religion, ça passe qu'il y a quand même différents des sexes. Celui qui travaille bien, pour que cette personne soit vraiment récompensée.
Oui.
Donc, j'aimerais savoir si Mère Teresa est la seule femme à être vraiment canonisée. Et aussi, j'aimerais savoir s'il y a des Africains, que ce soit quand même au niveau des femmes ou bien des hommes, s'il y a des Africains quand même qui ont été canonisés ou bien qui sont proches d'être vraiment, qui sont proches quand même de la canonisation. S'il y a des Africains, parce que je défends quand même souvent la cause des Africains sur la religion, quand même, on n'a pas d'auteur.
Gardez la ligne. Je pense que le professeur Ngarambe est très bien informé sur ça. Professeur, quelques éléments de réponse à notre auditeur à Bamako.
Oui, je la remercie vivement. D'autant plus que, étant lui-même de confession musulmane, il a de l'admiration pour quelqu'un de confession chrétienne, catholique.
Qui fait
alors,
du bien.
Je voudrais simplement souligner que la canonisation, ce n'est pas en réalité comme une récompense donnée à cette personne. C'est plutôt quelque chose qui est comme offrir à la communauté des modèles, des exemples à imiter.
Des références. Donc,
des personnes qui ressortent vraiment et qui devraient être imitées par d'autres. En fait, cette personne-là, Teresa de Calcutta, elle n'entre pas au ciel au moment où le pape déclare qu'elle est canonisée. Elle est entrée bien avant, mais on se donne un peu comme un temps pour analyser ce que cette personne a fait, ce qu'elle a réalisé, pour vraiment être sûr qu'on ne se trompe pas en proposant cette personne comme modèle, comme exemple de la communauté. Alors, notre personne, je crois que c'est Bakary, vous l'avez appelé.
Oui.
Alors, il demandait s'il y a eu d'autres personnes qui ont été canonisées
des
en Afrique et ailleurs. Oui, il y en a eu. Le cas le plus connu en Afrique, c'est celui des martyrs de l'Ouganda, qui, à la fin du 19e siècle, alors que la religion chrétienne venait à peine d'être introduite en Ouganda, ces jeunes gens se sont vraiment révélés catholiques et protestants ensemble, protestants en fait, je crois, anglicans, eh bien, ils ont vraiment offert leur vie pour ne pas dévier des commandements de Dieu. Donc, ils ont été présentés comme modèle, c'est le pape Jean-Paul, c'est le pape Paul VI, qui les a déclarés saints, c'était en 1964, je crois. Et il y en a sans doute aussi d'autres ailleurs en Afrique, je n'ai pas la liste sous la main comme ça là, mais je sais qu'il y en a. Il est vrai que l'Afrique, j'allais dire, est entrée dans la chrétienté un peu tard, mais au début du christianisme, au tout premier siècle, toute l'Afrique du Nord, donc l'actuelle Algérie, Tunisie, Maroc, etc., c'était des pays chrétiens avant que d'être musulmans à partir du 7e siècle. Il y a eu beaucoup de saints qui ont été canonisés là-bas. On connaît bien Saint-Augustin d'Hippone, comme on appelle sa mère, Monica. Ça, c'était des Africains. Il y a eu d'autres, les saints, les Cypriens, par exemple, etc. Il y en a eu assez bien dans les tout premières heures de l'Église, dans les premiers siècles. Alors, il s'est passé un temps avant que le continent ne soit de nouveau, j'allais dire, conquis par la religion chrétienne. Donc, il y a des saints en Afrique, il y en a qui sont canonisés, d'autres qui ne le sont pas, mais qui peuvent être pris comme modèles au sein même de leur propre communauté, même sans avoir été formellement canonisés par le pape, selon la procédure qui est en cours aujourd'hui.
Bakary, vous êtes encore là.
Je suis ravi quand même de l'excellent commentaire de notre éminent invité.
Oui.
J'en aurais terminé quand même pour saluer la philanthropie quand même de Marie-Thérèse.
Ah oui, merci Bakary. Je vous signale que notre invité est professeur d'université et catholique pratiquant qui a voyagé aussi à Jérusalem. Professeur, voudriez-vous nous rappeler ce que vous étiez allé faire à Jérusalem, je me rappelle que vous aviez apporté une petite pierre blanche.
Oui, alors...
Est-ce que vous l'avez toujours ?
Eric, c'est vrai, c'était en octobre 2010. J'avais profité d'une mission professionnelle de l'UNESCO. Je travaillais à l'UNESCO à ce moment là-bas. Alors, la mission avait lieu en Israël pendant 3 semaines. Alors, tous les week-ends, j'en ai profité pour aller visiter les lieux saints à Nazareth, à Jérusalem, le lac de Génézareth. Voilà, tous ces lieux-là, Bethléem, etc., etc. Alors, j'ai rapporté bien sûr quelques souvenirs, dont par exemple de petites pierres ramassées dans la rivière où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, c'était dans le Jourdain. J'ai rapporté aussi de petits cailloux qui ont été extraits sur le roche où la croix de Jésus avait été plantée. Là, c'est à Jérusalem. Voilà, ce sont des souvenirs. Alors, j'ai été, bien sûr, été approché par des personnes pour donner mon témoignage. Il y a eu, dans la radio-télévision du Burundi, des émissions successives. Il y en a eu 4 qui ont été données pendant tout un mois. Et alors, beaucoup de personnes m'ont demandé d'aller leur faire ce témoignage de vive voix, avec images, avec des vidéos à l'appui. Et c'était pour moi vraiment un plaisir de faire mon témoignage que je crois en Dieu et que je crois à la personne de Jésus qui est Dieu fait homme. Mmh. Voilà. Et alors, je signale que lors de cette visite-là en Israël, j'étais avec des musulmans, avec des protestants, et nous avons visité ensemble. Et les uns et les autres, vraiment dans la tolérance, dans le respect de la foi des uns et des autres, les protestants qui découvraient la personne de Marie, la mère de Jésus, et les musulmans qui découvraient vraiment la personne de Jésus, mais sans renoncer, bien sûr, à leur foi. Il faut absolument aussi les respecter. Voilà, c'était un moment très important dans ma vie. Je dirais que c'était le premier moment le plus important de passer ce temps de prière et de recueillement en Israël.
Est-ce que ça a renforcé votre foi ou ça n'a fait que, disons, confirmer votre conviction?
Alors, cela a vraiment renforcé, parce que je dois dire, Eric, et à l'intention aussi de ceux qui écoutent notre conversation, notre émission, c'est vrai, je connaissais les Écritures saintes, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, je connaissais bien. Et comme vous avez dit, oui, je suis toujours un chrétien catholique pratiquant, donc je ne me contente pas d'aller à la messe simplement le dimanche, non, même pendant la semaine, j'y vais, je médite la parole de Dieu et j'essaye surtout de la mettre en pratique, de la vivre. Moi, dans ma vie de professeur à l'université, depuis bientôt maintenant 39 ans, de vivre cette foi de chrétien catholique dans ma famille, avec mon épouse, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, de la vivre avec mes collègues, les autres professeurs, de vivre cette foi de chrétien catholique avec les politiciens que je côtoie régulièrement, pour avoir joué aussi un rôle dans la politique du pays depuis bientôt 25 ans. Voilà donc ce que je pourrais dire en résumé et en bref.
Oui, nous avons deux auditeurs en ligne. C'est Christian Djerabé. On commence par vous. Christian, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, votre commentaire sur la canonisation de Mère Teresa.
Oui, cette mère a rendu heureux les autres. Pour moi, j'ai une question à poser à nos invités. Ma question est la suivante. Pourquoi attendre d'abord la mort pour canoniser cette mère?
Pourquoi attendre la mort? Ok. Professeur, une réponse à Djerabé immédiatement. Pourquoi attendre la mort?
Oui, absolument. Vous savez, quand une personne est encore en vie, sujette à des tracasseries de la vie, sujette aussi à des mouvements d'humeur, c'est quand même une personne humaine qui vit avec d'autres personnes humaines et qui peut aussi être tentée par les différentes choses qui peuvent détourner quelqu'un. On ne peut pas tout de suite décider de quelqu'un qui est encore en vie, en chair, en os, que c'est vraiment une sainte personne. Ça, c'est vraiment difficile. C'est même impossible. Il faut vraiment attendre un petit moment pour que les actions faites par cette personne, que sa vie puisse vraiment, j'allais dire, rayonner au-delà du temps. Et on se donne quand même, en temps relativement long, on sait de l'Église catholique, c'est à peu près une dizaine d'années, à peu près 8 ans, 10 ans. Il y a des fois où c'est beaucoup plus long. Cela dépend du dossier et de l'urgence, bien sûr, compte tenu de ce que la société contemporaine a retenu de cette personne. Vous voyez, pour celle-là, ça a été vraiment très rapide, comme pour le pape Jean-Paul II. Il y en a pour d'autres où c'est un peu plus long, la procédure, parce que les qualités n'ont pas tout de suite frappé, mais il y en a. Alors, c'est, comme on dit au sein de l'Église catholique, c'est le Saint-Esprit qui inspire, en fait, les modèles dont la communauté présente a besoin, et c'est lui-même qui les fournit aux autorités d'Église investies de son pouvoir, de pouvoir alors mettre ça en lumière à l'intention de, j'allais dire, de ceux qui attendent ces exemples-là. Alors, au-delà de ceux qui sont formellement canonisés, mais il y a d'autres, nombreux, qui sont des saints et dont on peut déjà s'inspirer. Ceux-là qui sont canonisés formellement, c'est une petite portion que vraiment l'Église catholique donne comme modèle.
Une reconnaissance. Et la sœur Mary Lisa, qui dirige maintenant cette mission de la charité, la congrégation fondée par Mère Teresa, elle a dit que c'est dimanche, donc le jour de la canonisation, que c'est un jour de réjouissance, un jour de gratitude, un jour de bénédiction très nombreuse. Christian, vous êtes satisfait de la réponse de notre professeur ?
Oui, je suis satisfait. Merci beaucoup.
Merci. On retrouve John Trésor. John, bonsoir. John, vous nous entendez ? John, je pense qu'il y a un petit problème avec John. On va essayer de le retrouver. Alphonse Mbouaki à Kinshasa. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, Eric, Marie-Cuzia.
Oui, est-ce que vous voudriez vous parler plus fort pour qu'on puisse mieux vous capter?
Je dis bonjour, bonsoir chez nous, Eric.
Oui, votre commentaire très brièvement.
Je voudrais déjà votre visite au sujet de comment quelqu'un, selon la Bible, peut devenir un saint. Il y a des critères. Quand j'ai lu ma Bible, je trouve que l'homme de son vivant lui-même, quand il reconnaît qu'il est péché, il se répand, il demande pardon à Dieu, et Dieu lui pardonne, et il se décide de suivre la voie du Seigneur, la voie de Jésus-Christ. Donc, dans cette mesure que l'homme peut devenir saint. Alors, ce n'est pas un fait d'homme, ce n'est pas un fait d'un pasteur ou bien d'un pape pour qu'on vous déclare saint. C'est la Bible qui vous déclare saint de votre vivant. Alors, je vais m'adresser à votre invité, si la canonisation, d'après lui, si la canonisation correspond à la sainte d'études. Moi, de mon côté, je trouve que cette façon-là de faire n'est pas biblique. Donc, on devient saint lorsqu'on est vivant, soi-même. Lorsqu'on reconnaît son état de péché, on accepte Christ, on décide de le suivre, on demande pardon. Là, vous déclarez saint. Ainsi que l'apôtre Paul disait, au sein de Philippe, quand vous lisez les épîtres de Paul, on dit au sein de Philippe, au sein de Colosse, au sein. Donc, c'est Dieu qui a déclaré ces hommes saints, non le fait d'une canonisation. Donc, je trouve que cette doctrine-là n'est pas conforme à la sainte doctrine biblique. Qu'est-ce que votre invité a dit? Qu'est-ce qu'il a dit?
Alphonse? Alphonse? Si ce n'est pas biblique ou biblique, il faut reconnaître que c'est quelque chose de positif. Et le professeur l'a dit, c'est pour créer des références dans la société, des modèles, des personnes à imiter. Si tout le monde pouvait imiter Mère Teresa de Calcutta, le monde deviendrait un paradis, n'est-ce pas? Je reviens à notre professeur Ngarambe. Nous approchons la fin de l'émission. Le prix Mère Teresa a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. Et à l'époque, il avait surpris le monde en disant que l'avortement était la plus grande force de destruction de la paix. Aujourd'hui, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cette réflexion de Mère Teresa?
Oui, alors moi, je la soutiens fortement et très fort parce que, justement, l'avortement, ça c'est arracher la vie à quelqu'un. Or, la vie est donnée par Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui peut décider quand la vie est là. Alors, je sais que beaucoup de gens l'ont combattu à cause de ça, parce qu'il y avait des idées libérales, mais en tout cas, c'est vraiment conforme à la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Quand la vie est là, on doit surtout la protéger. Alors, par rapport à mon collègue précédent qui parlait que ceci n'était pas biblique, non, pas du tout. Il se trompait tout à fait. C'est parce que dans les Écritures, l'apôtre Saint Paul parle disant des chrétiens qu'ils sont des saints. Ça veut dire que tous nous sommes invités à avoir comme modèle les saints. Ils nous appellent déjà des saints. En réalité, quand on canonise quelqu'un, c'est aussi une action de grâce à Dieu. C'est une reconnaissance de ce que Dieu a fait dans cette personne. Et cette personne, bien sûr, a accepté, a accueilli Dieu. C'est la gloire qui est rendue à Dieu dans ce que lui-même il a fait. Donc, au-delà de tout ça, reconnaissance de ceci, c'est l'action de grâce à Dieu, c'est la louange à Dieu quand on canonise quelqu'un. Donc, l'Église reconnaît les merveilles que Dieu a faites dans cette personne pour toute l'humanité.
Il y a cette phrase du pape François qu'il a prononcé dimanche en canonisant Mère Teresa, « Celui qui n'est pas encore né est le plus faible, le plus petit, le plus misérable. »
Je ne comprends pas bien, là.
Il a dit « Celui qui n'est pas encore né est le plus faible, le plus petit, le plus misérable.
»
C'est très philosophique, je ne sais pas si... Vous pourriez nous aider à comprendre exactement.
Oui, alors, celui qui n'est pas encore né, il est le plus petit parce que, écoutez, sa vie, il ne l'a pas encore. Sa vie dépend d'autres qui peuvent l'accueillir ou ne pas l'accueillir. Mais le pape François, comme Mère Teresa, il est absolument contre l'avortement, bien entendu. Donc, toute vie est vraiment à protéger. Il est misérable, il est donc petit, il est faible. Donc, il faut que la communauté l'accueille. Ça, c'est peut-être un futur saint à canoniser. C'est peut-être un futur exemple pour toute l'humanité.
Merci, professeur. Le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé, mais nous aurons à exploiter un autre sujet la prochaine fois que j'avais voulu aborder au cours de cette émission. Mère Teresa s'était sentie rejetée par Dieu pendant la majeure partie de sa vie, allant jusqu'à douter de son existence. Comment continuer à avoir la foi, même dans les moments difficiles? On aura l'occasion d'y revenir. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci au professeur Paul Ngarambe pour sa grande contribution. Eric Manirakiza à Washington vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.